Bonsoir week-end.
Wendy Bouchard.
Les grandes voix.
Les grandes voix d'Europe 1 de ce samedi 3 avril. Ils sont avec nous. Bruno Jeudy, éditorialiste et chef du service politique de Paris Match. Bonsoir Bruno.
Bonsoir Wendy.
Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
Et Laetitia Krupa, journaliste politique. Bonsoir Laetitia.
Bonsoir.
Je vous le disais, des grandes voix qui vont être très politiques ce soir.
Wendy Bouchard.
Les grandes voix.
Car vous attendez peut-être avec impatience le nouveau livre d'Édouard Philippe, Impressions et lignes claires, un livre complice écrit avec son ami de 20 ans, conseiller spécial à Matignon, Gilles Boyer. Ils ont écrit plusieurs romans de politique fiction ensemble et ils commencent à se confier l'un et l'autre dans une longue interview au Point, assortie de quelques extraits que vous avez lus tous les trois, qui nous nourrit beaucoup d'ailleurs. Dans un instant, Laetitia Krupa, vous allez vous accrocher, je crois, à un extrait un petit peu particulier. Mais je voudrais que vous nous disiez tous les trois ce que vous pensez d'abord de cette nouvelle sortie intéressante, habile, j'allais dire, Bruno Jeudy, parce que Édouard Philippe, alors, n'est pas adepte de petites phrases, mais il le dit quand même. Ce que je fais au Havre est sans doute moins stressant, mais je ne vais pas nier que j'aime être aux manettes, en responsabilité. Donc il distille évidemment des petits messages.
Oui, il affiche clairement la couleur. Je pense que c'est limpide. Édouard Philippe est en réserve de la République. Il est toujours dans le camp d'Emmanuel Macron, mais il est libre. Il laisse entendre même qu'aujourd'hui, il ne lui doit plus rien, puisqu'il lui a redonné sa liberté. Mais on comprend évidemment que Édouard Philippe ne sera pas candidat à l'élection présidentielle si Emmanuel Macron est candidat. Il ne sera pas Brutus de ce point de vue-là.
Oui.
Ça veut dire que si Emmanuel Macron ne l'est pas, Édouard Philippe le sera. Parce que ce qu'il fait là, c'est quelqu'un qui a décidé de s'inscrire dans le paysage politique sur la durée. Il est un personnage populaire, Frédéric le dira. Il entame quand même un processus de... À travers l'interview dans le Point, le livre des extraits qu'on a pu voir, on sent quand même un petit processus de pression sur Emmanuel Macron,
oui,
que je trouve un petit peu particulier, puisque je pense que ça ne sert à rien pour lui, puisqu'ils ne seront pas concurrents. Donc ça ne sert peut-être à rien de titiller la Macronie. Il n'a pas digéré un certain nombre de commentaires qui ont pu être faits lorsqu'il est sorti. Globalement, je ne suis pas sûr qu'ils étaient très adroits, parfois, certains macronistes, de critiquer un peu Édouard Philippe, le haut fonctionnaire, un peu rigide, l'homme des 80 km/h, j'en passe et des meilleurs. Mais ce qui est certain, c'est que quand vous êtes le premier chef de gouvernement à sortir avec un niveau de popularité qui est le sien, peut-être même le plus populaire, je crois, dans l'histoire de la 5e, forcément, vous pensez à la marche supérieure, même si Édouard Philippe m'a toujours dit, franchement, président, c'est vraiment autre chose par rapport à Prime.
Oui, mais il est sorti de l'enfer de Matignon, sous les vivas, Frédéric Dabi, avant de vous donner la parole. Laetitia, très clairement, personnalité préférée des Français.
Très, très clairement, oui. Il a quitté l'hôtel Matignon, et le seul précédent que je vois, c'est Michel Rocard, en 91, congédié par François Mitterrand, dans un véritable état de grâce.
Ah oui.
Alors qu'il sortait d'une crise sanitaire qu'il a complètement révélée. Pour les Français, il a été l'interlocuteur des Français, il les a rassurés. Quand Emmanuel Macron, à part ses deux, trois grandes interventions, était extrêmement silencieux. Je trouve que là, ce livre, c'est une grande carte postale, c'est un terme extrêmement galvaudé, mais elle arrive à un moment que je trouve idoine. D'une part, il garde une popularité extrêmement élevée. Hein, dans le baromètre IFOP fiducial pour Paris Match, c'est le premier ou le deuxième homme politique préféré derrière Nicolas Hulot, mais qui a une popularité, si je puis dire, de papier qui ne sert pas à grand-chose. Et c'est un trait d'union parfait entre LR et LRM. Selon les mois du baromètre que nous menons avec Bruno Jeudy, il est premier chez LR, premier, deuxième chez LRM, derrière Emmanuel Macron ou derrière Nicolas Sarkozy, s'agissant de LR. Et puis, il a, d'autre part, cette sortie me paraît opportune parce qu'il y a un moment quand même, on voit dans les enquêtes qualitatives, où son souvenir, je ne dirais pas s'efface, mais s'estompe un peu.
Ouais,
il y a moins dans les discours le regret du départ d'Édouard Philippe.
Oui.
Il y a moins dans les discours des propos d'illégitimité sur pourquoi donc a-t-il pris Jean Castex. Jean Castex, certes impopulaire, et là, occupe le terrain. Et comme Bruno Jeudy, l'important dans une relation entre les hommes politiques et les Français, c'est la question de la cohérence. Et sa cohérence, c'est bien sûr de ne pas aller contre Emmanuel Macron, mais être dans une logique Pompidou 68, c'est-à-dire attendre oui. et voir venir.
Frédéric Dabi, c'est intéressant, Laetitia Krupa. Alors, quand on dit que, on lui dit qu'il est personnalité préférée des Français, il s'en défend en disant, vous savez, la personnalité, disons plutôt la moins impopulaire, et puis je me méfie de tout ça, c'est très volatile, c'est très versatile, donc il est très prudent sur ce que pensent aujourd'hui les Français de lui, Laetitia.
Bah, il est surtout malin, Wendy, parce qu'il a très bien compris que sa popularité venait de cette posture d'humilité et de transparence qu'il avait adoptée à la fin de sa présence à Matignon dans ses fameuses conférences de presse qui avaient fait sa marque avec Olivier Véran et où effectivement il disait « je ne sais pas ». C'est ça qui avait plu aux Français, « je ne sais pas ». Sauf que, Wendy, c'est bien de ne pas savoir quand on est en responsabilité et surtout quand on les quitte. Mais quand on veut y revenir, moi, si vous voulez, effectivement, j'ai voulu aujourd'hui reparler d'Édouard Philippe parce qu'il y a un point qui m'a interpellée dans cette interview dans l'hebdomadaire, c'est la question sur les masques. Et là, Édouard Philippe, qui, je rappelle, était aux manettes, puisque ça, c'est sa petite expression fétiche, qui était donc responsable du fiasco de la parole gouvernementale sur la pénurie de masques, il dit... En gros, il nous dit « on a suivi l'OMS ». Et c'est vrai qu'on aurait pu faire mieux. Mais bon, enfin, c'est un peu court, Wendy. Finalement, c'est lui qui a dit dans une interview aux 13h de TF1, le port du masque en population générale n'avait aucun sens. Il l'a redit ensuite. J'ai regardé les archives en avril où il dit que l'OMS dit qu'en population générale, le port du masque n'est pas finalement une bonne idée. Donc, c'est quand même lui qui était Premier ministre à cette époque-là, c'est lui qui s'est trompé et ça, les Français comprennent très bien qu'on peut se tromper si effectivement on ne fait que suivre l'OMS. Mais nous dire un an plus tard, écoutez, oui, c'est vrai, j'aurais peut-être pu faire un peu mieux, je pense qu'il faudra étayer vraiment ce mea culpa.
Laetitia, il précise quand même, il précise, on a changé de pied avant l'OMS quand on s'est rendu compte que de nombreux spécialistes à l'étranger disaient qu'en les portant, on pouvait améliorer la situation. Il le dit quand même.
Oui, mais enfin, c'est quand même c'est un mea culpa, un vraiment un minima. Oui. Et vous savez, Wendy, qu'il fait l'objet d'une information judiciaire ouverte par la Cour de justice de la République. Et donc, il sait très bien qu'il est soupçonné d'omission de combattre un sinistre. Donc, si vous voulez, la parole politique aujourd'hui est aussi contrainte par cette menace judiciaire constante. Il l'avait lui-même reconnu devant les députés quand on lui a demandé de venir s'expliquer sur sa gestion de la crise.
Oui, mais est-ce que les Français peuvent lui reprocher à ce jour,
c'est ça qui est très, très intéressant. Tout ce que dit Laetitia Krupa est objectivement vrai, mais l'opinion ne fonctionne pas comme cela. Il y a une logique d'exonération pour Édouard Philippe, comme il y a une logique d'exonération pour Emmanuel Macron. Dans des indicateurs que l'on suit avec le JDD depuis le début de l'année 2020 sur la confiance à l'égard de l'exécutif s'agissant de la crise sanitaire, on a des scores extrêmement bas. Et pour autant, on a vu Édouard Philippe complètement exonéré. Si Beth Ndiaye, pas du tout. Elle a payé cash ce fameux rire sur une radio concurrente d'Europe 1 où elle dit un masque,
les Français ne savent pas mettre le masque,
ça ne sert à rien, etc. Et Édouard Philippe, de ce point de vue-là, son mea culpa est plutôt habile parce qu'il crante, si je puis dire, ce mea culpa, mais les Français ne sont pas sur une logique de reproche à son égard.
Un homme qui
qu'il n'est pas revenu encore, parce qu'il est loin, parce que c'est l'oncle d'Amérique pour l'instant, Frédéric.
Non, c'est fini pour vous.
Non, je crois pas, revenu ou pas, les Français, je suis d'accord. Pour l'instant, ils sont pas du tout dans le moment où ils tireront les leçons de cette crise. Ils ont le sentiment que c'est très compliqué. Les indicateurs globaux sont pas très bons, mais il y a aussi cette idée qu'ils font ce qu'ils peuvent, même si ils ont pas oublié effectivement ni les masques, ni les tests et la vaccination qui les met franchement en colère. On le voit tous les mois, nous, dans les questions qu'on pose avec Frédéric Dabi et l'IFOP.
On n'a pas encore le livre qui sort le 7 avril. Vous l'avez lu déjà, vous, Bruno?
J'ai commencé à le lire. Chez nous, il y a Sophie Desdéserts qui prépare un long sujet sur lui la semaine prochaine qu'il a lu. Et franchement, la petite musique qui ressort de ça, c'est... vous l'avez dit, Gilles Boyer écrit avec lui, avec Édouard Philippe. Il y a un côté... c'est un peu la revanche des Juppéistes qui se passe actuellement.
Alors c'est intéressant que vous parliez de ça parce qu'il rapporte dans ce livre que si Alain Juppé avait été élu en 2017, il avait l'idée, avec Gilles Boyer, de nommer à Matignon un certain Emmanuel Macron et de nommer Jean Castex comme secrétaire général de l'Élysée.
C'est la révélation la plus étonnante de ce livre.
C'est incroyable.
Voilà, c'est la révélation la plus, double révélation la plus étonnante de ce livre, c'est de se dire qu'Alain Juppé essayait d'être disruptif à son tour et avait imaginé d'aller chercher quelqu'un dans l'autre camp, puisqu'Emmanuel Macron a été candidat, mais avant ministre de François Hollande. Jean Castex, c'est moins étonnant, parce que Jean Castex était dans le circuit à droite, pas connu, mais dans le circuit à droite, mais... secrétaire général adjoint de Nicolas Sarkozy, mais surtout très proche de Xavier Bertrand et très pro sur la santé. D'ailleurs, Édouard Philippe avait envisagé le nommer ministre de l'Intérieur quand Emmanuel Macron a préféré Christophe Castaner.
Oui, c'est vrai que c'est une véritable révélation. Et qu'est-ce qui s'est passé en vrai? C'est que le cabinet d'Édouard Philippe à Matignon était rempli de fidèles, d'affidés, de personnes qui ont tracé un long chemin avec comment dire, Alain Juppé. Donc de ce point de vue-là, c'est un juste retour des choses. Sachant que Édouard Philippe, souvenons-nous, c'est aussi ce qui a fait sa popularité dès le début de son bail à l'hôtel Matignon. Il n'a jamais caché les choses. Il a annoncé la couleur. Sa première phrase, alors qu'Emmanuel Macron a été élu par des voix de gauche, lorsque Bernard Cazeneuve lui transmet les pouvoirs, c'est « je suis un homme de droite ».
Oui, absolument. Il l'aurait dit d'ailleurs.
Et d'ailleurs, il est sorti plutôt
aussi à droite. Il l'a montré avec la réforme des retraites. Hein. C'est quand même lui qui a mis les gens dans la rue.
Oui, mais
c'est beaucoup plus à droite. On ne garde Édouard Philippe que les bons souvenirs. Mais enfin,
c'est pour ça qu'il a 89%.
C'est les masques, Édouard Philippe, c'est les tests.
Oui, mais c'est pour ça qu'il a 89% de bonnes opinions à droite, autant que Nicolas Sarkozy. Et ce qui est fort, c'est qu'il a aussi 89% de bonnes opinions chez La République En Marche, quasiment autant qu'Emmanuel Macron. Je crois que dans l'histoire de ce tableau de bord IFOP match que nous faisons avec Frédéric Dabi, je crois que c'est la première fois que ça arrive.
Ouais, et il a aussi sa barbe blanchie, dont sa fille de 10 ans lui dit qu'elle lui fait penser à Kung Fu Panda. Voilà, ça c'est pour la petite anecdote. Merci.
Ça c'est pour le storytelling, surtout.
C'est pour ça qu'il va la garder, cette barbe.
À plein tube avec Édouard Philippe, il a bien compris comment fonctionnait storytelling, et pour l'instant c'est vrai que c'est plutôt efficace.
Impression, Éline Claire, merci à tous les trois. Ce livre sort le 7 avril, écrit avec son ami de 20 ans, le député Gilles Boyer. On se retrouve dans un instant avec ce que vous avez retenu aussi de l'actualité, Frédéric Dabi, Laetitia Krupa et Bruno Jeudy, et puis le calendrier vaccinal, les autotests, on va en parler, et la comparaison Allemagne-France vaut le détour. À tout de suite.
Europe Soir Weekend. Wendy Bouchard. Les grandes voix.
18h49, les grandes voix en débat jusqu'à 19h avec nous, l'éditorialiste et rédacteur en chef à Paris Match, Bruno Jeudy, le directeur général adjoint de l'IFOP, Frédéric Dabi, et la journaliste politique, Laetitia Krupa. Le président de la République a annoncé que toutes les personnes âgées de plus de 60 ans pourront être vaccinées dès le 16 avril. On parlait de l'urgence à vacciner avec Nathalie Elimas les enseignants. À partir de la mi-avril, on le souhaite et on en verra, on en saura davantage dans les jours qui viennent. Et je voudrais que vous nous parliez également des autotests, Laetitia Krupa. Vous avez pas mal analysé le modèle allemand. Il se trouve qu'en Allemagne, ces autotests sont vendus depuis plusieurs semaines maintenant en grande surface. Comment ça se passe et pourquoi tant de retard en France? Ils n'arriveront chez nous en pharmacie que le 12 avril.
Oui, effectivement, en Allemagne, ça fait à peu près 3 semaines, 1 mois qu'ils sont disponibles dans tous les... c'est les grandes surfaces, mais c'est aussi, vous savez, les petites échoppes. On les trouve vraiment partout avec des tarifs qui sont assez abordables. C'est entre 5 et 8 euros.
Oui.
Et c'est devenu vraiment une habitude, si vous voulez, dans les entreprises, par exemple. Les chefs d'entreprise le distribuent aux employés et 2-3 fois par semaine, ils font des tests. Et dès qu'il y a un signe positif, bien sûr, on demande aux salariés de faire un test PCR, voilà, et puis de s'isoler, et puis on dit à tous les autres, on donne les mesures voilà, à suivre. Donc si vous voulez, c'est vraiment entré en fait très vite dans les mœurs. On a l'impression que après un an de pandémie, tous les citoyens sont capables et ont envie de participer eux-mêmes à dépister un petit peu cette épidémie et à la contenir. Donc, il y a vraiment, comme le chef de l'État nous appelait là encore de ses voeux, à une responsabilité générale. Ça existe si vous donnez les moyens aux citoyens. C'est toujours cette question. On peut être responsabilisé si on nous les donne de façon simple, accessible. Et en Allemagne, ça fonctionne très bien, comme les tests salivaires qui sont vraiment généralisés dans toutes les écoles et qui sont devenus obligatoires dans certains Länder. C'est-à-dire que si vous n'avez pas ce test salivaire, si vous refusez de le faire, vous ne venez pas à l'école et cette mesure devrait être généralisée dans le pays. Finalement, la population l'accepte.
Oui, mais ce qui est terriblement frustrant, c'est qu'on arrive toujours derrière. l'attente.
C'est assez à l'image de ce qui se passe depuis le début de cette crise.
C'est fou.
Systématiquement, la France aurait eu 3 semaines, 1 mois de retard.
Ouais.
On aurait bien aimé une fois être champion en Europe, mais on n'y arrive pas. Là, c'est.
Et ça, c'est. Alors, on y revient toujours à la même chose. C'est la technocratie, c'est les coûts administratifs, c'est l'inertie.
C'est la lourdeur de certaines opérations. C'est aussi la volonté tout le temps d'avoir des tests qui soient le plus près possible des 100%. Et donc, on prend un peu de retard. Voilà.
Mais hélas, franchement, on le voit dans nos enquêtes, ça ne fait qu'agacer encore plus les Français qui rêvent de la sortie de crise, qu'ils ne voient pas. On n'a que 4% des Français qui envisagent une sortie de crise cet été. Et on voit que le temps de l'opinion, le tempo attendu en temps de Covid n'est pas celui de l'administration à la française. Je rappellerai, tout à l'heure, Wendy, vous receviez Madame Elimas, que la première prise de parole de Jean-Michel Blanquer sur la vaccination nécessaire, obligatoire des enseignants, c'est mi-janvier.
Très tard.
Et puis mars et puis avril. Même chose pour les autotests. Alors, bien sûr, il y a un maillage de pharmacies suffisant. On a un modèle français très spécifique sur les pharmacies, mais ce temps perdu, qui pour les Français ne se rattrape pas, est particulièrement agaçant.
Laetitia Krupa, Frédéric Dabi, Bruno Jeudy sont avec nous. Laetitia, oui.
Juste pour vous rassurer, l'état du mental et du moral de la population allemande est le même qu'en France. On est quand même fortement démoralisés. Voilà, et on attaque constamment le gouvernement parce que d'un jour à l'autre, il change de stratégie, il change de politique, donc on ne sait jamais sur quel pied danser. Je vous assure que c'est la même chose en Allemagne, c'est juste histoire de se rassurer un peu.
Ouais, ça fait du bien parfois de se comparer, de se rassurer un tout petit peu. Alors racontez-nous une histoire qui peut nous faire du bien, Bruno Jeudy. Je crois que c'est votre coup de cœur, et c'est à lire dans Paris Match.
Mon coup de cœur cette semaine, une fois n'est pas coutume, c'est un article de Paris Match, c'est pour un candidat écologiste, il est bibliothécaire à Laval, il a 32 ans, il s'appelle Maël Renoux. Il est numéro 2 de la liste Europe Écologie Les Verts dans les Pays de Loire qui est dirigé par Mathieu Orphelin. Et ce monsieur est autiste. Il a décidé de le révéler. Il a été diagnostiqué il y a 2 ans.
Asperger.
Diagnostiqué Asperger, donc c'est le plus bas niveau de l'autisme. Et il y a 10 ans, il avait été diagnostiqué TDA, trouble déficitaire de l'attention. Il a beaucoup cherché à savoir, parce qu'il a vu une scolarité lui-même dit un peu compliquée, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, donc il a cherché à comprendre. Et ça a mis plusieurs... D'abord, il faut s'inscrire dans le centre d'autisme des Pays de la Loire. Ça a mis 2 ans pour avoir son diagnostic. Et le diagnostic est tombé. Il a décidé de le partager avec ses colistiers. Et il a fait le choix de le révéler. Je trouve que c'est un témoignage qui est formidable. C'est le handicap invisible. Et il a décidé de porter cette parole. Selon l'Inserm, il y a 1 million de personnes en France qui sont atteintes de l'autisme, diagnostiquées ou pas. Donc, c'est quelque chose de très important. Je trouve que le faire, c'est le plus beau geste qu'on pouvait imaginer pour la journée de sensibilisation à l'autisme.
Absolument.
Qui était vendredi.
Et il s'appelle
Maël Ranou. Et c'est un monsieur qui est très courageux avec un témoignage très fort.
Merci beaucoup. Alors, ce que vous avez entendu cette semaine au cœur des paroles politiques vous a heurté, intéressé aussi Frédéric Dabi. J'aurais qu'on écoute quelques secondes cette maire Europe Écologie Les Verts, on y revient mais dans autre chose, la maire Europe Écologie Les Verts de Poitiers qui a décidé de couper les subventions aux aéroclubs. Écoutez.
Compte tenu du fait que ça ne menace pas la survie de l'association aujourd'hui, nous considérons que l'argent public ne doit plus financer les sports fondés sur la consommation de ressources épuisables. C'est pour ce genre de décision qu'on a été élu aussi. C'est pour re-questionner toutes nos politiques au filtre du changement climatique.
Alors évidemment, ça fait parler.
Oui, ça fait parler. Il y a une autre phrase, Wendy, qui a fait parler. Elle a aussi, lors du débat avec une série d'élus qui parlaient d'une association Rêve de Gosse qui fait voler des enfants en avion atteints de handicap, elle a dit « L'aérien, c'est triste, mais ça ne doit plus faire partie des rêves des enfants d'aujourd'hui ». Renoncer à ces subventions pour ces aéroclubs, c'est au contraire les protéger et protéger l'avenir. Alors, sans surprise, de très nombreuses réactions sont apparues pour condamner les propos anti-aviation de cette maire qui est récente. Elle n'a que 30 ans. Elle a été élue en juin dernier. Elle a mis fin à un bail du PS qui était depuis 30 ou 40 ans aux manettes, si je puis dire, comme dirait Édouard Philippe, sur la ville de Poitiers. Saint-Exupéry a été convoqué, par exemple, par le ministre des Transports. Saint-Exupéry disait « Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité ». Il a stigmatisé les élucubrations autoritaires et moribondes de la maire de Poitiers. Même Jean-Luc Mélenchon, qui plutôt se rapproche des Verts dans toute une série de régions, a fait un tweet signé Icar « Coucou Poitiers, les rêves restent toujours libres ». Alors, deux réflexions. D'une part, par ses déclarations, la maire de Poitiers a réactivé, après le sapin de Noël, un arbre mort inutile à Bordeaux. Après le Tour de France ringard à Lyon, elle a réactivé cette image de maire écologiste, dogmatique, sectaire.
Tout en s'en défendant. Hein, elle dit pas du tout une mesure
mais
dogmatique, mais on a été élu pour ça.
D'un point de vue politique, on le voit avec Bruno Jeudy, notamment dans Paris Match, la succession de ces déclarations affaiblit l'image d'Europe Écologie des Verts, qui semble en difficulté pour transformer cette belle percée aux élections européennes. On voit aux élections régionales, où ils sont mal placés partout. On voit leur crédibilité fragilisée à l'échelle nationale. Dans le dernier baromètre, il faut fiducial pour Match, on voit que la force qui incarne le moins aujourd'hui l'opposition à Emmanuel Macron, c'est Europe Écologie des Verts. Mais au-delà de ça, au-delà de la polémique, moi, ce qui m'intéresse, c'est que cette déclaration questionne sur le rôle du dirigeant politique aujourd'hui. Un bon dirigeant, dans l'imaginaire des Français, c'est celui qui transforme le quotidien, qui pèse sur le cours des choses et qui donne un cap. Et très, très clairement, elle a essayé de donner un cap. Est-ce que ce cap là, doit comprendre des contraintes, voire une intrusion dans la sphère privée, dans l'éducation? Elle dit, les enfants, il ne faut pas leur parler d'aviation. Aujourd'hui, les Français refusent cela, mais on a vu toute une série de politiques publiques réussies. Je pense par exemple au tri des déchets, où l'État introduit dans la vie privée. C'est pour ça que ce n'est pas qu'une polémique.
C'est pas anecdotique du tout, Alexia Kepa, absolument.
Mais non, mais c'est un cas d'école d'une communication complètement ratée. Enfin, vous voyez bien qu'en sortant cette phrase sur les rêves, c'est tendre le bâton pour se faire battre. Et évidemment, l'exécutif tire à boulet rouge, je veux dire, c'est d'une facilité extrême, parce que cette communication finalement reste à la surface, exacerbe tous les bords politiques, toutes les critiques, et puis finalement le fond de la pensée écolo qui est quand même une bonne politique, qui est d'une politique qui est là pour sauver le monde de ce danger climatique. Je vous rappelle quand même que il faut respecter l'accord de Paris, il faut que l'empreinte carbone d'un Français tombe à entre 1,6 et 2,8 tonnes, et qu'un aller-retour Paris-New York, par exemple, c'est une tonne de CO2 par passager. Donc vous voyez bien qu'il y a là quand même des objectifs louables, mais en sortant ce type de phrase, c'est vraiment finalement mettre une bombe dans tout le projet politique des écologistes.
Bon,
voilà
je dis,
et
ouais,
voilà comment on mine complètement le terrain.
Et c'est d'autant plus maladroit de s'enflammer sur Rêve de Gosse, qui est une association qui a fait rêver des enfants malades, atteints de cancer, de maladies terribles. Donc voilà, c'était aussi très peu délicat sur
l'art
ce sujet-là.
L'art de se faire détester, on a l'impression que c'est devenu une façon de faire des nouveaux maires écologistes. C'est vrai, entament leur mandat avec beaucoup, beaucoup de difficultés et de plus en plus le vent, j'allais dire, en face.
Oui, et bien on reviendra sur les alliances possibles, la gauche dans tout ça, hein, à partir de 18h30 demain dans le débat des Grandes Voix qui revient avec vous, Frédéric Dabi, Laetitia Krupa et Aurélie Herbemont. Merci Bruno Jeudy, à très bientôt.
Wendy.
Merci à vous.